Mais il n'y a aucune information et donc il n'y a pas du tout de débat. Seulement, nous savons ce qui est le désir des États-Unis et nous savons ce qui est dans les mandats. Et de ce fait, il y a de quoi être extrêmement inquiet parce que c'est vraiment une prise de pouvoir à la fois du judiciaire et du législatif que ces entreprises veulent prendre en main. Judiciaire. Si une entreprise qui a investi, c'est traité sur le commerce et l'investissement, n'est-ce pas? L'investissement, si un investisseur de partout d'autre, passé, présent ou futur, estime que ses profits ont été entamés par une mesure quelconque d'un gouvernement, il a le droit de porter plainte contre ce gouvernement, elle, pardon, l'entreprise a le droit de porter plainte contre le gouvernement devant un tribunal privé, tribunal d'arbitration. L'exemple que l'on a en France, c'est Bernard Tapie. 400 millions pour Bernard Tapie qui était payé par vous et moi parce que c'était un tribunal privé et qui n'était pas le judiciaire, enfin, c'était pas la structure juridique de la France. Ça doit devenir la règle pour régler les différends si ce traité passe. Alors, les plus anciens d'entre vous dans la militance se souviennent peut-être de l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a des gens qui disent oui. C'était la même chose là. Et depuis, ces tribunaux ont été introduits, cette clause qui s'appelle ISDS en anglais, Investor to State Dispute Settlement, ça a été introduit dans des quantités d'accords bilatéraux de commerce. Les quantités de traités bilatéraux ont cet article dedans. Ces paragraphes sont identiques. Et il faut qu'un État qui a déjà signé avec un partenaire un accord comme ça, il est tenu à donner la même chose à des partenaires futurs dans un autre traité, et tout ça est enregistré à l'Organisation mondiale du commerce. Bon. Alors, voilà ce que l'Europe et les États-Unis cherchent à obtenir. Et ça a été accepté par tous nos gouvernements parce que c'est sous cette forme, plus ou moins, dans les mandats que nos gouvernements ont donné à la Commission européenne à négocier. Pourquoi on doit avoir ça? Si c'était la République démocratique du Congo, ok. C'est peut-être pas un système judiciaire très fiable. C'est peut-être un peu corrompu. Peut-être qu'on peut acheter des juges. Peut-être que on a c'est celui qui passe le plus de fric sous la table qui gagne. Mais c'est vraiment pas le cas ni aux États-Unis ni dans les pays européens. Nous n'avons pas besoin de cela. Seulement, d'après quelqu'un, un porte-parole de l'Europe, il a dit, on a ça parce que les États-Unis n'acceptent pas qu'un instrument comme un traité soit à la base d'une plainte devant l'une de leurs cours de justice. Est-ce qu'il disait vrai ou faux? S'il disait vrai, ce qu'il faut dire aux États-Unis, c'est que leur délégation de négociateurs rentre chez eux, change la loi chez eux, et puis reviennent, et puis on peut en parler. Mais il n'y a aucune raison d'utiliser des tribunaux privés. Jusqu'ici, il y a eu des cas dans de très, très nombreux domaines. Et c'est là où je me permets de dire que ça est plein de menaces pour tout le monde. Exemple. Veolia a porté plainte contre l'Égypte. Parce que Veolia a des contrats de nettoyage et Veolia Environnement, et l'Égypte a augmenté le salaire minimum. vous avez entamé mes profits. Voilà. Ce n'est pas décidé encore. Il y a 500 cas comme ça qui sont en train ou qui ont été décidés. La plupart sont toujours en route. Exemple. Au Québec, une compagnie américaine porte plainte contre le gouvernement du Québec parce que elle veut faire du fracking, fracturation hydraulique dans le bassin du Saint-Laurent, zone fragile. Le Québec a dit non et cette compagnie demande 250 millions de dollars au gouvernement parce qu'elle n'a pas reçu un traitement équitable. Exemple. Entre la Suède et l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a décidé de se débarrasser petit à petit de l'industrie nucléaire. Aussitôt, cette décision prise, la compagnie Vattenfall suédoise de distribution d'énergie porte plainte pour 4,7 milliards contre l'Allemagne parce que ça entame ses profits espérés et futurs qu'elle était en droit d'attendre. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de ce type qui sont dans des traités bilatéraux ou plurilatéraux et les avocats, parce que les arbitres sont surtout jusqu'ici, surtout américains, ou britanniques, des très grands cabinets, eux aussi transnationaux, qui sont ravis parce qu'ils voient une explosion de cas avec le TAFTA, ce qui est probablement vrai. Plus grande compensation décidée jusqu'ici, l'Équateur doit payer à une compagnie pétrolière américaine 1,700 milliards encore pour une histoire de forage dans une zone que l'Équateur disait protégée et la compagnie dit non, nous avions la possibilité, d'après nous, nous avions la possibilité de forer partout. L'Équateur a voulu garder certaines zones et ça c'est une décision. Il y a plus de 500 cas comme ça actifs ou décidés et toutes les pronostics disent qu'il y aura au moins 60, 70, peut-être 100 nouveaux cas par an si ce TAFTA passe. Alors ça, c'est un très grand danger. L'autre très grand danger, dans le domaine du commerce, parce qu'il y a peu de problèmes dans le domaine commerce, nos tarifs entre les États-Unis et l'Europe sont déjà très très bas, de l'ordre de 2-3%. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces histoires pour si peu. Sauf en agriculture, où les tarifs européens contre les exportations alimentaires américaines sont plus élevés, de l'ordre de 12 à 15% selon les produits. Et là, les Américains, naturellement, veulent faire baisser considérablement ces tarifs. Et on a les lettres publiques que les Américains ont publiées, ont envoyées à leurs négociateurs, ça c'est pas secret, que d'une part, ils considèrent que les OGM sont des nourritures exactement comme les autres et qu'il est criminel et discriminatoire de s'opposer à des produits qui contiennent des céréales ou du soja, qui contiennent des OGM, et que d'autre part, les indications géographiques, camembert, pas camembert peut-être, mais les noms génériques et géographiques, les fromages de Savoie, de Normandie, de Cantal, voilà, il y en a des quantités, et le Champagne ou le Bordeaux. Enfin, non, ce sont pour eux des noms génériques qui sont dans l'usage général et on peut faire aussi bien du Champagne en Californie, pourquoi pas. Alors, ça, c'est deux choses importantes pour eux, mais aussi simplement de baisser les tarifs surtout. Et puis, nous arrivons à ce domaine de la régulation dont j'ai dit déjà un mot, et je ne veux pas être trop long, alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais là, c'est vraiment, il parle de notre système où nous utilisons le principe de précaution en disant, s'il y a un doute sur la sécurité pour le consommateur, pour la santé, pour l'environnement, on s'abstient. Si ça risque fort et on considère que le risque est considérable, nous ne permettons pas à ce produit d'entrer ou ce processus d'être utilisé. Les États-Unis ont une toute autre philosophie. Vous lancez le produit et puis s'il y a des plaintes, vous pouvez éventuellement retirer le produit du marché. Mais, deux exemples là, il y a une liste de produits chimiques sur les marchés aux États-Unis qui est d'environ 83 000 produits. Depuis que cette liste existe, 3 décennies à peu près, il y en a combien vous pensez qui ont été interdits de ces produits chimiques? 5. Non, mais c'est comme ça. Il faut des années pour faire interdire la moindre substance. D'autre part, quel était l'autre exemple chimique que je voulais vous donner? Bon, ça me reviendra. Mais les produits, principe de précaution n'est pas admissible. OGM sont pareils aux autres produits, bœuf aux hormones, ça vous vous souvenez de ça depuis les négociations sur l'OMC, poulet lavé au chlore, ah oui, je sais l'autre exemple que je voulais donner, les voitures. Bien sûr, il y a une agence de régulation des voitures aux États-Unis. Mais la General Motors a été obligée à la longue de retirer 1 600 000 véhicules de la circulation parce que l'allumage s'arrête comme ça. Vous pouvez être au milieu d'un carrefour, vous pouvez être à 150 sur l'autoroute, ça s'arrête. Plus de frein, plus de direction, rien. On le savait, il y a eu 13 morts de prouvés. Il y a eu beaucoup plus de plaintes que ça à l'agence de régulation, mais celle-ci n'a pas agi parce qu'elle avait 2, 3 plaintes par mois, elle considérait depuis 12 ans, et elle considérait que ce n'était pas assez pour prendre une décision. Voilà. Alors, on peut être exposé à ce genre de choses, d'autant plus qu'ils ont compris que les Européens commençaient à comprendre que ça a été, que c'était ça le contenu de ce TAFTA et que les Européens n'aimaient pas ça du tout. Et alors, ils ont dit, OK, nous n'avons qu'à faire ça nous-mêmes, nous faisons un conseil de coopération en matière de régulation que nous allons attacher d'une manière ou d'une autre au TAFTA pour que ça ait la même force juridique, la force d'un traité, mais nous allons le faire nous-mêmes. Nous allons faire dans ce conseil de coopération, il y aura la même structure que Davos, maintenant beaucoup, beaucoup d'entreprises qui seront présentes pour définir les règles, plus quelques personnes expertes choisies dans les agences de régulation, mais le pouvoir va être avec réellement le secteur privé. Ça, c'est un gros risque. Ce n'est pas décidé encore. Ce que je vous dis là est hypothétique, mais nous avons suffisamment de signes pour nous montrer que ceci constitue vraiment un très grave danger. Avant, les syndicats américains étaient pour le TAFTA parce qu'ils se sont dit, nous pensons que nous pouvons faire réguler vers le haut. Illusion, évidemment. Maintenant, ils ont compris. Ils ont changé de position. Aux États-Unis, il y a une lutte parce que eux négocient en même temps quelque chose de similaire avec le Pacifique, avec 9 pays du Pacifique, dont le Japon. Alors, regardez géopolitiquement ce que ça veut dire. Là, vous avez au centre les États-Unis, là l'Europe, là l'Asie. Si les États-Unis arrivent à avoir toutes ces dérégulations et ces introductions de pouvoir transnational, et ici et là, ça fait 75% de tout le commerce mondial et à peu près les deux tiers du PNB mondial. C'est géopolitiquement fantastique parce que la Chine est exclue, le Brésil est exclu, l'Inde est exclue. Et tout le monde va être forcé à accepter les mêmes règles ou risquer vraiment d'être exclu du commerce mondial. Voilà aussi l'un des buts. Donc cette histoire-là est dangereuse. C'est dangereux pour les agriculteurs parce que si on baisse les tarifs, on est certain de perdre au moins 2 millions d'agriculteurs européens sur les 13 millions qui restent. Ça se réduit comme peau de chagrin chaque année, mais on n'aurait plus du tout la qualité de nos produits agricoles en France, c'est sûr, des déserts ruraux, et puis beaucoup d'importations, pas labellisées, parce que les Américains ne veulent pas non plus qu'il y ait des étiquettes qui disent ce produit contient des OGM. Puisque c'est la même chose, c'est pas la peine. Sur le plan juridique, je vous ai expliqué, c'est vraiment une saisie du pouvoir des cours, et sur le plan législatif, ça ôte du législateur tout le pouvoir de réguler dans tous les domaines, y compris la finance. Si eux prennent le contrôle de la régulation du finance, nous n'aurons jamais la taxe sur les transactions financières. Nous aurons les banques qui seront aussi libres que les banques américaines, qui font la loi dans ce domaine-là.